Noël est un temps de retrouvailles, de réjouissances et de gaieté. En Occident, la plupart des gens offrent des cadeaux à leurs amis et aux membres de leur famille. Noël est une fête où tout doit être parfait comme un ciel sans nuages ou une nuit étoilée. On expose la crèche avec l'enfant Jésus et les animaux autour de lui, mais on passe sous silence un événement particulièrement sanguinaire qui a pourtant eu lieu quelque temps après que les rois mages soient venus adorer le Seigneur. Il s'agit de ce qui s'appelle le massacre des innocents, la mise à mort systématique de tous les petits garçons de Bethléem. L'instigateur de cette boucherie fut le roi Hérode. C'est lui qui, sous la tutelle romaine, détenait le pouvoir en Judée. Cet homme était de religion juive parce que son peuple avait été forcé de l'adopter sous peine de mort par les Maccabées, la famille de prêtres qui dirigea Juda jusqu'à ce que Rome prenne le contrôle de la Palestine. Hérode était de culture grecque et le seul enfant de sa famille à porter un nom grec. D'ailleurs, il essaya à plusieurs reprises de transformer Jérusalem en une ville grecque. Politiquement parlant, Hérode était romain. Chaque fois qu'il y avait un conflit, il se plaçait résolument du côté de Rome. Toutes ces caractéristiques réunies faisaient de lui un individu fort complexe. On le décrit comme un homme capable, musclé et courageux, qui conduisit personnellement son armée dans 10 guerres différentes. En fait, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il était de caractère noble, du moins au début de sa carrière. En effet, pendant le conflit entre d'une part Antoine et Cléopâtre et d'autre part Octavien pour le contrôle de l'Empire romain, Hérode mit tout son poids du côté d'Antoine qui fut battu. Après sa victoire décisive sur son adversaire, Octavien, le futur César Auguste, se rendit à Rhodes afin de préparer la suite. Hérode y alla également et lui demanda une audience qui lui fut accordée. Pendant toute sa vie, Hérode avait été un ami personnel d'Antoine et l'avait soutenu contre Octavien. Comment allait-il tirer son épingle du jeu? Il entra dans la salle d'audience sans sa couronne et déclara à tous qu'il avait toujours été du côté d'Antoine et qu'il lui était resté fidèle même dans la défaite. Il acheva son discours en disant « Ce que je demande est qu'on prenne en considération non pas de qui je suis l'ami, mais quel ami fidèle je suis. » César fut très impressionné et déclara alors que Hérode était un homme sur qui il pouvait compter et lui dit de remettre sa couronne sur la tête. Hérode retourna en Palestine avec son titre de roi mieux assuré que jamais. Mais avec les années, le caractère d'Hérode se désintégra. En tout, il se maria avec 10 femmes. Il considérait ses fils comme des ennemis politiques potentiels et sur ses ordres, 2 d'entre eux furent étranglés. Plus tard, il se mit à suspecter la loyauté de Marianne, sa femme préférée, et la fit assassiner. Ce méfait accompli, il se mit à déambuler dans son palais en criant son nom et il ordonna à tous ses serviteurs de se mettre à sa recherche. Comme ils ne purent la trouver, il les fit battre de verges. Hérode était un homme génial et brutal. Devenu vieux, il fut affligé de maladies très douloureuses. Dans ses derniers jours, il fit arrêter le prince successeur qu'il avait lui-même choisi et le fit enfermer dans le donjon de son palais. Alors qu'il souffrait atrocement, il essaya de se suicider, mais un garde l'en empêcha, et tout le palais fut en émoi. La confusion qui s'ensuivit se transforma en la nouvelle de sa mort qui se répandit comme une traînée de poudre. Entendant cela, le prince ordonna qu'on le relâche afin qu'il puisse prendre les rênes du pouvoir. Hérode, ayant survécu à sa tentative de suicide, ordonna la mise à mort du prince. 5 jours plus tard, il mourut. son dernier ordre fut de commander à ses troupes d'arrêter des milliers de notables de son royaume et de les enfermer dans le stade de Jéricho. À sa mort, tous ces hommes devaient être exécutés afin qu'il y ait un grand deuil national. En effet, Hérode savait très bien que nul ne verserait une seule larme pour lui. Heureusement, ce dernier ordre ne fut jamais exécuté. Quand on considère quel genre d'homme Hérode était devenu, il n'est guère surprenant qu'il ait ordonné le massacre des petits garçons de Bethléem. Jésus est né dans un monde où la brutalité était de mise et le roi Hérode était de son temps, mais aussi un jouet dans les mains de Satan qui essaya par lui d'éliminer l'enfant Jésus, le Messie. Étant donné que le sujet qui nous occupe est le prophète Abdias, on peut se demander ce que Hérode vient faire ici. Eh bien, la prophétie d'Abdias annonce principalement l'anéantissement du peuple d'Édom, et il se trouve que le roi Hérode était iduméen, c'est-à-dire que par son père, il descendait d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, tandis que sa mère était arabe nabatéenne de Pétra, l'ancienne capitale du royaume d'Édom. L'animosité entre les Édomites et les Israélites est certainement l'un des plus anciens exemples de discorde et de haine dans une relation humaine. Ésaü et Jacob, les ancêtres fondateurs de ces deux peuples, étaient jumeaux et leur conflit commença déjà dans le sein de leur mère Rebecca. Ésaü étant né le premier, c'est à lui que revenait le droit d'aînesse avec tous ses privilèges. Mais devenu homme, un jour, alors qu'il revenait de la chasse avec une faim de loup, il échangea par serment ses droits de premier-né contre une potée bien garnie. C'est ainsi que Jacob supplanta Ésaü. Après cet incident, Ésaü complota la mort de son frère. Mais leur mère Rebecca l'éloigna en l'envoyant chez son frère Laban. Ésaü reçut son nom, qui veut dire « velu » parce qu'il est né couvert de poils. Il fut également surnommé Édom, ce qui veut dire « roux », parce que d'une part, il était rouquin de naissance, et d'autre part, la potée contre laquelle il échangea son droit d'aînesse était de couleur rousse. Plus tard, Ésaü alla s'installer dans le pays de Séir, une région de grès d'une couleur qui, elle aussi, tirait sur le rouge et qui était située au sud-est de la mer Morte. Ses descendants exterminèrent ou chassèrent les Auriens qui y habitaient et prirent leur place. Pour ces raisons, la couleur rousse a toujours été associée avec Ésaü, surtout si on ajoute que c'était un peuple sanguinaire, mais cette caractéristique est relativement banale, car dans l'Antiquité, comme d'ailleurs aujourd'hui dans certains pays, la vie humaine ne vaut pas un sou. Les Édomites s'installèrent donc dans la montagne de Séir, un mot qui, assez curieusement, a la même consonance que « velu », qui est la signification du nom Ésaü. Il s'ensuit que Séir et Ésaü, c'est du pareil au même, et avec Édom, ils forment trois mots qui sont utilisés comme synonymes dans l'Ancien Testament. Quand les Hébreux furent en vue du pays promis, ils demandèrent aux Édomites de les laisser passer sur leur territoire. Mais ces derniers refusèrent catégoriquement et rassemblèrent tous leurs guerriers. Israël était alors déjà très puissant et aurait probablement pu vaincre les Édomites, mais l'Éternel ordonna à son peuple de ne pas les prendre en grippe parce qu'ils étaient leurs frères. Une fois installés en Palestine, l'hostilité entre les Israélites et les Édomites continua de plus belle parce que ces derniers avaient la haine au ventre contre leurs frères de sang. Les rois Saül et Salomon eurent maille à partir avec les Édomites, et le roi David les vainquit au point de presque les exterminer. Josaphat, roi de Juda, Joram, roi d'Israël Nord, ainsi que le roi d'Édom formèrent une confédération pour attaquer les Moabites. Mais cette coopération fut de courte durée. Peu de temps après, et toujours sous le roi Josaphat, les Édomites se joignirent aux Moabites et aux Ammonites pour attaquer Juda. Mais l'Éternel intervint en semant la zizanie dans les rangs des conjurés, et au final, dit le texte, les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Plus tard, et comme je l'ai déjà dit la fois précédente, sous le règne de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, les Édomites se révoltèrent contre Juda, dont ils étaient les vassaux. C'est à cette époque qu'ils se joignirent aux Philistins et aux Arabes pour mettre à sac Jérusalem, faire un massacre et vendre ses habitants comme esclaves. C'est à cet événement que fait référence le prophète Abdias. Cette incursion ne fit évidemment que jeter de l'huile sur le feu. Le roi de Juda, Amatsia, fit la guerre aux Édomites et en tua 10 000. Plus tard, pendant le règne du roi Akaz, roi de Juda, un texte dit « De nouveau, les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené des captifs. » Enfin, en 586 avant Jésus-Christ, les Édomites participèrent aux côtés des Babyloniens à la destruction de Jérusalem et du Temple. C'est à ce moment-là que des gradins, ils crièrent à tue-tête « Rasez-la donc! Rasez-la jusqu'aux fondations !» Quelques années après cet incident, le déclin des Édomites commença pour ne plus s'arrêter jusqu'à leur disparition complète. Cette longue liste de guerres fratricides et de tueries entre les Israélites et les Édomites était due à la haine ancestrale que vouaient les descendants d'Ésaü aux Hébreux, alors que ces derniers n'attaquaient le royaume d'Édom qu'après une provocation. D'après les récits de l'Ancien Testament, les Israélites ne vouaient pas de haine à leurs voisins et désiraient simplement vivre en paix avec eux. À cause de l'animosité perpétuelle des Édomites envers leurs frères de sang, l'Éternel prononça plusieurs fois des jugements contre eux, à commencer par le prophète Abdias, qui fait des châtiments à venir d'Édom le sujet principal de sa prophétie. Celle-ci s'est accomplie petit à petit au fil des siècles et peut être résumée de la façon suivante. Après la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens, et malgré la présence des Édomites à leur côté, ces derniers furent à leur tour envahis environ 5 ans plus tard par les armées de Nabucodonosor. Même s'il n'existe pas de traces historiques de cette conquête, Jérémie la prophétisa et l'historien juif Joseph écrit que les Babyloniens attaquèrent la Syrie, conquirent les Moabites, les Ammonites, puis envahirent l'Égypte. Or, il n'est guère plausible de penser qu'ils laissèrent les Édomites tranquilles, alors qu'on peut être sûr qu'ils s'étaient joints à leurs voisins Moabites et Ammonites pour résister à l'agression babylonienne. Au contraire, c'est à la ruine d'Édom à ce moment-là que correspond la prophétie de Malachie dans laquelle l'Éternel dit « J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. » Édom peut bien dire « Nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. » Mais le Seigneur des armées célestes déclare « Eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. » On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Fin de citation. Vaincus par les Babyloniens, les Édomites rescapés s'établirent dans le sud de la Judée, une région qui s'appelait Idumée, le nom grec pour ce territoire de Juda. À cette même époque, les Nabatéens firent leur apparition en Palestine. C'était une tribu d'Arabie probablement issue du fils aîné d'Ishmaël, le premier garçon né d'Abraham et de Agar, servante de Sarah, femme d'Abraham. Les Nabatéens furent peut-être même envoyés par Nabucodonosor pour occuper la place laissée vacante par les Édomites. Ces Arabes prirent donc possession de Pétra, l'ancienne capitale d'Édom, et de ce fait contrôlaient le golfe d'Aqaba sur la mer Rouge, ainsi que l'important port d'Elat. Les Édomites, qui étaient encore dans la montagne de Séir, furent absorbés par les Nabatéens et disparurent. Au deuxième siècle avant notre ère, et alors qu'ils étaient installés dans le sud de la Judée, les Édomites furent attaqués et vaincus par Juda Maccabée. Puis, vers l'an 135 avant notre ère, un autre membre de la famille des Maccabées les contraignit à se soumettre à la loi de Moïse et à se faire circoncire. Plus tard, au moment de la guerre des Juifs contre Rome, les Édomites étaient alliés aux Hébreux, ce qui fait qu'ils furent exterminés lors de la prise de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. Quelques fuyards se réfugièrent parmi les tribus du désert où ils disparurent complètement. Au IIIe siècle de notre ère, Origène, père de l'Église, affirmait qu'il ne restait plus rien ni de leur nom ni de leur langue. Abdias n'est pas le seul à prophétiser contre Édom. Ils sont 8 auteurs sacrés à le faire. Comme je l'ai déjà dit, Joël aussi annonce leur châtiment parce qu'ils ont osé s'attaquer à Jérusalem. Mais quand on considère les prophéties d'Abdias et de Joël, on retrouve 6 versets du premier chez le second. De toute évidence, l'un s'est forcément inspiré de l'autre, ou alors tous deux ont puisé à la même source de documents. Comme Joël a prophétisé quelques années après Abdias, c'est ce dernier qui détient la copie originelle. Chez Jérémie et Abdias aussi, on retrouve pratiquement les mêmes phrases. Ici encore, il est évident que l'un des deux a copié sur l'autre. Or, tout porte à penser qu'Abdias a écrit le premier. En effet, Jérémie a l'habitude de rattacher ses prophéties à celles de ceux qui l'ont précédé. Le texte d'Abdias est suivi, simple et clair, et le prophète passe logiquement d'une pensée à une autre, alors que dans Jérémie, la continuité des idées fait défaut. Il écrit des phrases détachées qui ressemblent à des citations. Et puis le style d'Abdias est beaucoup plus rude que celui de Jérémie qui est mieux travaillé. De plus, il serait particulièrement bizarre qu'une prophétie aussi brève que celle d'Abdias se soit inspirée d'une autre. Deuxièmement, il n'est pas envisageable qu'Abdias ait emprunté la majeure partie de sa prophétie de quelqu'un d'autre et qu'il puisse dire « Révélation reçue par Abdias, le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom ». Il s'ensuit donc qu'Abdias est un lointain précurseur de Jérémie et que sa prophétie est bien antérieure à la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Le style d'Abdias est très original car il utilise des mots et des expressions qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Son langage respire l'Antiquité et se distingue nettement des grands prophètes. Il parle rapidement, avec vigueur et sévérité, emmenant le lecteur qui ne peut que sympathiser avec lui. Abdias aime les interrogations pleines de détails, vifs et éclatants, ainsi que les affirmations brèves. Il est souvent poète et jamais monotone. Après son accusatoire contre les étrangers qui ont infligé tant de blessures à Jérusalem, il conclut en disant à Édom « Oui, toi aussi, tu as agi comme eux ». En seulement 3 versets, Abdias ordonne 8 fois aux Édomites de ne pas profiter de la situation de détresse de leurs frères israélites et répète 7 fois au jour de, afin de bien scander et d'accumuler les raisons du jugement à venir d'Édom. Enfin, Abdias conclut son livre prophétique par un grand coup de massue quand il dit « Alors l'Éternel sera roi ». Le caractère limité des perspectives du livre d'Abdias, en particulier en ce qui concerne le salut, donne à penser qu'il se situe au début de l'histoire et de la littérature prophétique. Cette supposition est renforcée par la place qu'occupe le livre d'Abdias dans le canon hébreu de l'Ancien Testament, où il est rangé parmi les textes des premiers prophètes écrivain. En résumé donc, on peut dire avec une quasi-certitude qu'Abdias a émis sa prophétie peu après l'an 845 avant Jésus-Christ, vers la fin du règne de Joram, roi de Juda. Le livre d'Abdias se compose de deux parties principales. La première, qui se subdivise en deux, annonce d'abord la ruine d'Édom, puis en expose les raisons. Édom s'est réjoui du malheur de son frère, le peuple de Juda, et a profité d'une invasion ennemie pour piller Jérusalem et piéger les rescapés afin de les tuer. Pour ces crimes, Abdias dit « On te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. » Selon la loi du talion, Édom sera à son tour trahi par ses alliés, dépouillé de ses richesses et exterminé. Dans la seconde partie du livre, Abdias annonce la venue du jour de l'Éternel, jour du jugement de toutes les nations. Le châtiment d'Édom dans l'histoire est un prototype dans le sens qu'il anticipe le jugement final universel. Par contre, le peuple de Dieu bénéficiera du salut et dominera tous les autres peuples. C'est ainsi que l'Éternel réalisera son règne dans l'histoire humaine. Le livre d'Abdias enseigne que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il tient dans sa main les destinées de toutes les nations et pas seulement d'Israël. L'annonce du jugement souligne que chaque homme et chaque peuple sont responsables de leurs actes et que nous aurons tous des comptes à lui rendre. À bon entendeur, salut.